Les infos choisies
chaque vendredi de 12h30 à 13h
sur Radio Galère à Marseille
et Ayoli Radio à Avignon.
Des infos
qui nous touchent,
qui nous concernent,
qui nous ressemblent,
qui nous parlent,
qui nous donnent de la force,
qui nous font réagir.
C'est parti pour 30 minutes d'infos choisies.
Bonjour.
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 Nous sommes le vendredi 6 mars 2026, il est 12h passé de 32 minutes et c'est l'heure des infos choisies.
Donc vous êtes bien sur Radio Galère en 88.4 FM et en DAB+, sur radiogalère.org et en rediffusion les lundis matins à 8h et sur Radio Ayoli. Aujourd'hui on parle des guerres dévastatrices, des élections au Népal. On va aussi parler de la journée européenne étudiante contre la militarisation et de la marche féministe de ce dimanche 8 mars avec notre invitée Juliette. Sans oublier les brèves antifascistes et bien sûr le mythique Agenda.
Et oui, commençons cet édito en disant que les guerres c'est dégueulasse. Macron, lors de son allocution présidentielle mardi 3 mars au soir, a prétendu vouloir maintenir la paix. Donc maintenir la paix, c'est apparemment annoncer des renforts militaires au Moyen-Orient en guerre, déployer le porte-avions Charles de Gaulle en Méditerranée, lancer de la fabrication de nouvelles têtes d'ogives nucléaires, détruire des drones. Mais non, Macron a affirmé ne pas s'engager dans la guerre. Bon, c'est une vision de la paix bien martiale alors. Macron va donc faire la guerre au nom de la paix et nous prend vraiment pour des abrutis. La guerre, c'est des cibles, c'est des immeubles bombardés, des drones qui tuent, une invasion terrestre de l'armée israélienne au Liban. Le Liban est de nouveau meurtri par la guerre depuis le début de la semaine. Israël poursuit l'objectif d'un démantèlement du régime iranien et de ses capacités militaires. Elle a, selon l'agence d'État libanaise, également mené de nouveaux bombardements tôt ce matin sur la banlieue sud de Beyrouth. De grandes pensées à toutes les civils qui subissent les guerres en cours au nom du profit de quelques-unes au pouvoir.
Les infos choisies, vendredi,
les
midi 30.
Les infos choisies, vendredi,
les
midi 30.
Les infos choisies, vendredi, midi 30.
Et alors ensuite, moi je voulais vous parler du Népal. Le Népal, on en parlait un petit peu il y a quelques mois dans le cadre j'avais parlé du mouvement Gen Z qui bouge un petit peu tout le monde. Et donc il y avait eu des soulèvements au Népal en septembre de l'année dernière. Concrètement, ce qui s'était passé, pour rappel, il y avait déjà des revendications des jeunes sur les réseaux sociaux contre la corruption et contre le népotisme, à la suite de quoi le gouvernement a décidé de supprimer, d'interdire les réseaux sociaux, ce qui n'a pas du tout eu l'effet escompté, puisque les soulèvements sont partis de plus belle, non plus sur les réseaux sociaux, mais dans la vraie vie. Les soulèvements du 8 et 9 septembre ont pour effet de prendre le Parlement, enfin de faire tomber le Parlement, de forcer le Premier ministre à démissionner. Ensuite, le gouvernement par intérim a été voté sur Discord, Discord étant la plateforme qui était utilisée par la Gen Z à ce moment-là. Et suite à des accords avec la Gen Z, qui était toujours inclus du coup dans cette réflexion politique, les gouvernements s'engagent à organiser une élection démocratique. Élection démocratique qui est venue hier, le 5 mars. Un appel aux urnes était organisé. Le dépouillement est toujours en cours et en plus le Népal c'est loin, donc évidemment on n'a pas toutes les infos pour l'instant. Concrètement, les candidats qui sont actuellement en liste, qui sont les plus haut placés, ça va être K.P. Sharma Oli. C'est le Premier ministre qui a été contraint à la démission le 9 septembre dernier. Il dit que c'est pas son pays qui était contre lui, c'était des ingérences étrangères. Ce qui est finalement un argumentaire assez courant pour les politiques qui ne veulent pas partir. Ce serait son 5e mandat s'il devait être élu. Donc voilà, j'aimerais bien qu'il ne le soit pas. Ensuite, on a Gagan Thapa, qui est à la tête du parti Congrès népalais. Donc c'est un parti plutôt progressiste, mais qui n'est pas nouveau. Enfin, il date d'avant les soulèvements. Mais Gagan Tapa dit que vu qu'ils ont l'expérience, enfin vu que ce parti a l'expérience des processus démocratiques népalais, il faut pas pour autant le jeter avec l'eau du bain. La liste et tout, enfin le parti a été un petit peu réformé pour mieux correspondre aux revendications du mouvement Gen Z. Notamment, il y a plus de femmes sur les listes et plus de jeunes, ce qui est plutôt chouette. Le dernier parti, enfin pas le dernier, mais un, le parti qui est très médiatisé en réalité, c'est le parti Rashtriya Swatantra Party, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, c'est le parti RCP, tel qu'il est décrit en tout cas, avec à sa tête Balendra Shah, qui est l'ancien maire de Katmandou, il a 35 ans, et il est rappeur. C'est un parti plutôt centriste. Balendra Shah, il se fait connaître parce qu'il fait un peu sa star, il refuse de parler aux médias traditionnels, il ne veut pas forcément faire sa star, mais... Il est présenté comme tel, en tout cas, dans la plupart des médias. Et voilà, il a un peu cette, il incarne un peu cette jeunesse qui était demandée par le mouvement Gen Z. Cependant, souligner que le mouvement Gen Z ne vote pas explicitement pour Balendra Shah ni pour le RSP, mais au contraire, met en avant l'idée pour chacun de vraiment se faire sa propre idée. Il y a toute une communication qui est prise en main, en fait, par le mouvement Gen Z via le Gen Z Civic Forum. De vraiment documentation, d'informations citoyennes, on peut dire ça comme ça, dans la mesure où il s'agit d'élections, pour vraiment encourager les Népalais, Népalaises à voter. Alors la conclusion c'est, est-ce qu'on est trop content, youpi, c'est déjà le moment de se réjouir ? Évidemment pas, ça n'arrive jamais ce genre de choses. Il y a toujours des revendications qui ne sont pas prises en compte, notamment pour ce qui est des territoires reculés. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas du tout représentées dans les revendications des partis de ces élections, notamment les indigènes qui peuvent se sentir exclus. On a énormément de femmes qui ne peuvent pas voter. Sur toute la masse votante, seulement 10% sont des votantes, justement. Les résultats sont pas connus pour l'instant, donc on ne sait pas encore s'il y aura une évolution réelle dans la politique népalaise, ou si ça va encore être un backlash démocratique. Mais au moins, on peut se réjouir du fait que ça manifeste une participation de la jeunesse et de la Gen Z en particulier, et que ça représente, oui, leur participation politique, non pas tant dans les partis, mais dans la prise en charge de la question politique. Ça montre une hausse de l'intérêt, et même s'il y a encore énormément de choses sur lesquelles travailler, ça montre peut-être le début d'un travail, justement.
Et petite pause musicale dans les infos choisies, on a choisi Tia Guillotine tout de suite.
Faire tomber le banc et les frontières. Prendre un ministre au hasard, lui faire une coupe à la Louis XVI. Juste pour rappeler à Gérald nos putains de traditions françaises.
Tradition française. violence, contre un peu de défense, contre un peu d'existence. Car nos sourires s'effacent aux annonces défilantes, aux habits des puissants, aux manifs et puis en marchant des ouvriers. Je ne veux pas de rang qu'on me range aux oranges. Je ne veux pas me vendre un qui puisse apaiser une colère grandissante, un cri venu des ongles étouffés par l'argent.
Et maintenant, on va parler des grèves lycéennes contre l'armement et les guerres. Donc, juste à côté, n'hésitez pas, là, le matin, à passer voir sa bloc côté lycée Saint-Charles. Je suis allée discuter un peu ce matin avec les lycéennes en grève. Et en fait, hier, c'était une journée européenne de lutte contre la militarisation de la jeunesse et aussi des revendications parce que ça, il y a la suppression globalement de personnes, de personnel dans les établissements. Donc, oui, nous sommes dans un contexte de militarisation à l'échelle mondiale. Macron avait annoncé le 27 novembre un service militaire qu'il a d'abord prétendu être volontaire et qui sera obligatoire en cas de crise majeure. Il sera donc très certainement obligatoire pour 50 000 jeunes sélectionnés d'ici 2035. Voilà, et dans les deux universités, c'est devenu régulier que l'armée et la gendarmerie viennent, passent avec leur propagande et les chefs d'établissement maintenant acceptent les affiches de recrutement à l'intérieur des établissements. Donc on est vraiment dans une propagande pro-armée. En Allemagne, l'appel de cette journée antimilitariste s'inscrit à la suite d'une journée de grève scolaire en décembre, lors de laquelle il y a eu 55 000 jeunes qui avaient manifesté partout en Allemagne. Et une journée de grève avait eu également lieu à Hambourg fin février, réunissant plus de 3 000 personnes. Ça fait plaisir en fait aussi de relayer des mouvements comme ça. Il n'y a pas eu un tel mouvement en décembre en France. Après une même annonce en fait de parce que en fait voilà cette mobilisation a eu lieu alors que depuis le 1er janvier le service militaire volontaire a été officiellement lancé en Allemagne et ce qui n'a pas eu le cas était le cas en France en décembre. Tous les jeunes hommes allemands âgés de 18 ans ont l'obligation de répondre à un questionnaire de la Bundeswehr et de se soumettre à un examen médical afin d'évaluer leur capacité à servir tandis que les femmes peuvent participer sur la base du volontariat. Pour les personnes trans, on ne sait pas. C'est toujours un enjeu. Bref, un service militaire pour l'instant volontaire, mais qui promet d'être obligatoire si le dispositif n'atteint pas ses objectifs. Et voilà, il y a eu des mobilisations dans les écoles, partout en Allemagne. Et les gouvernements poursuivent le même objectif cynique, proposant d'acheter une jeunesse précaire. Le réarmement est facturé avec l'austérité dans les services publics, l'éducation et la santé en premier, comme on le voit, hein, qu'il y a toujours moins de moyens dans plein d'autres services publics. Et si j'ai un peu de temps, j'aimerais bien faire un petit tour d'Europe des services volontaires ou pas, pour dire qu'en Belgique, les jeunes de 17 ans ont été invités par courrier fin 2025 à participer à une année de service volontaire. Au total, près de 149 000 lettres ont été envoyées. Et malheureusement, près de 3000 jeunes se sont déjà inscrits pour décrocher l'une des 500 places disponibles. Donc plus de personnes que de demandes, c'est triste. En Europe, il y a des pays qui n'ont jamais abandonné le service obligatoire, l'Autriche, la Danemark, la Suisse, la Finlande, la Norvège, la Grèce, Chypre et l'Estonie. C'est des modèles différents entre obligatoire ou tirage au sort. Le Danemark a décidé d'allonger progressivement la durée de conscription de 4 à 11 mois. La Lituanie a restauré dès 2015 un service de 9 mois pour les hommes sur tirage au sort. Donc ça, c'était lié à la guerre avec l'Ukraine et les tensions avec la Russie. Les conscrits basculent ensuite dans la réserve pour 10 ans quand même. En 2003, la Lettonie, voisine de la Russie, a également fait marche arrière et instaura un service de 11 mois. Suède en 2017 pour une durée de 9 à 15 mois. Fin octobre, la Croatie a voté le rétablissement de la conscription pour les hommes à partir de 2026. Il avait été suspendu en 2008. La Bulgarie en 2020 et les Pays-Bas en 2023 ont lancé des formes de services militaires volontaires. Et depuis 2024, la Pologne a elle aussi mis en place une formation militaire volontaire sur la base d'un mois. et en la Roumanie dès 2026 qui lance un service volontaire de 4 mois. Voilà pourquoi je voulais faire un petit tour d'Europe, c'est pour dire que voilà, on ne peut pas se dire que l'Europe n'est pas en cours vers la guerre. Et non, ce n'est pas la baguette, la paix, c'est bien la guerre qui s'annonce un peu partout.
Vous êtes toujours sur Radio Galère, 88.4 FM.
Donc ce dimanche 8 mars, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, nous recevons Juliette du collectif du 8 mars. Bonjour Juliette.
Bonjour.
Dans quel groupe de travail est-ce que tu es pour ce 8 mars ?
Alors du coup, il y a une inter-orga qui s'est créée, qui réunit des collectifs, des organisations et des individus. Et moi, je fais partie du collectif Marseille 8 mars, comme tu le disais, et du groupe de travail sur la grève féministe. L'idée de la grève féministe, c'est d'avoir un peu une stratégie pour le 8 mars autour de la grève et en fait de mettre à l'arrêt, de visibiliser et de mettre à l'arrêt le travail productif, qui est le travail qui produit entre guillemets de la valeur dans le système dans lequel on est, et le travail reproductif, qui est le travail qui permet de reproduire la force de travail, donc le travail d'éducation des enfants, mais aussi de soins, de liens aux autres, qui permet d'avoir une force de travail toujours active. Et du coup, l'idée, c'est que ce travail productif et reproductif, il est très souvent et majoritairement réalisé par des personnes sexisées, donc femmes et minorités de genre. Et donc, pour sensibiliser à la grève féministe, nous, au sein de Marseille 8 mars, on organise des ateliers à l'année, des ateliers participatifs. Et là, au sein de l'Interorga, on essaye du coup de faire une grève massive. Le 8, c'est toujours un peu compliqué. Cette année, c'est un dimanche. C'est pas inintéressant parce qu'il y a aussi beaucoup de secteurs de personnes sexisées et précarisées qui travaillent le dimanche. Et du coup, nous, pour le 8, avec l'Interorga, là, on a prévu sur la zone d'occupation féministe, donc à partir de 14h, de faire différents ateliers, un atelier sur la facturation du travail domestique, avec l'idée de reprendre un peu les armes du capitalisme sur la valorisation du travail et de faire participer les personnes pour faire des factures de ce que représenterait du coup le salaire qu'elles recevraient dans le cadre de ce travail domestique. Un débat sur les situations... pas forcément un débat, mais plutôt une participation, témoignage sur les situations de violence et de discrimination qu'on peut rencontrer dans le travail ou en dehors, et une agora, on va plutôt essayer de faire parler de nos luttes collectives, qu'elles soient passées, en cours ou futures. Mais j'en dis pas plus et je vous laisserai venir dimanche.
D'accord, merci. Est-ce qu'il y a un petit communiqué pour l'interroga de 2026 de cette année ?
Il y a un communiqué qui n'est pas petit, mais que je vais vous lire.
Allons-y.
Si ça vous va. Donc le 8 mars, dans le monde entier, la situation politique est marquée par le retour des guerres impérialistes et la montée de l'extrême droite, ce qui impacte les femmes et les minorités de genre. Les réactionnaires attaquent notre droit à disposer de nos corps en imposant des politiques austéritaires, anti-avortement, natalistes et autoritaires. De Milei à Orban, de Trump à Poutine, les offensives violentes se multiplient, comme la chasse aux personnes migrantes et LGBTI aux États-Unis. En France, Macron parle de réarmement démographique, après avoir mené des campagnes de stérilisation à Mayotte en 2023. Il nous somme de faire des enfants dans un pays où 4000 postes d'enseignantes ont été supprimés en un an, où la police tue les enfants des quartiers populaires, où les pédocriminels sont multi-récompensés, où l'on menace l'accès aux soins pour les enfants trans et où le chef d'état-major des armées nous demande d'accepter de perdre nos enfants pour leur guerre. Nos corps ne seront pas l'outil de leur politique mortifère et nous ferons des enfants si on veut, quand on veut. La constitutionnalisation de l'IVG n'est qu'une vitrine. L'austérité détruit concrètement le droit à disposer de nos corps, baisse des subventions des plannings familiaux, casse de l'hôpital public, fermeture de maternités et de centres de santé reproductive. À Marseille, le centre de santé communautaire du Château en Santé est menacé de perdre la moitié de ses subventions. Hôpitaux, EHPAD, crèches, écoles, ces métiers dits essentiels sont méprisés, sous-financés et soumis à des logiques de marché. Salaires indignes, conditions de travail intenables et pression permanente produisent des violences structurelles. Ce sont des femmes précaires, racisées et les minorités de genre qui sont surreprésentées dans ces emplois, sans reconnaissance. Les travailleuses du soin exigent des salaires et des conditions de travail dignes. c'est de notre travail dont la société a besoin, pas des milliardaires. Sans ces tâches essentielles, la société s'arrête. Au-delà du droit à disposer de nos corps, nous sommes toujours les plus exploités dans le monde du travail. Cette précarité renforce la dépendance économique et empêche trop souvent de fuir les violences conjugales. C'est pourquoi nous continuons inlassablement de rappeler les chiffres de la violence patriarcale. En 2025, c'est 165 féminicides qui ont été recensés, dont 8 dans les Bouches-du-Rhône. En France, toutes les 7 heures, un homme tue ou tente de tuer sa conjointe ou son ex-conjointe. Toutes les 2 minutes 30, un homme viole ou tente de violer une femme. Toutes les 3 minutes, un ou une enfant est victime de violences sexuelles. Les violences sexistes, racistes, transphobes, validistes ou agistes se croisent et se renforcent. L'essor de l'intelligence artificielle participe aussi à cette violence. Consommation massive de ressources, destruction d'emplois, deepfakes sexuels, harcèlement sexiste, contenu masculiniste et surveillance généralisée. Si les macronistes, main dans la main avec le PS, font des économies sur la santé et les services publics, c'est pour mieux financer l'armée et préparer la guerre. Pendant que l'éducation et l'université sont abandonnées, ce sont des services militaires qui sont financés, n'offrant plus qu'un avenir sombre à la jeunesse qui a perdu à la loterie Parcoursup. Ce discours guerrier s'appuie sur le nationalisme et la famille patriarcale, nourrissant les idées virilistes et racistes de l'extrême droite. À Marseille, maillon clé du dispositif militaire avec Eurolinx et le port de Foss, la grève des dockers a déjà montré sa capacité à enrayer cette machine de mort. Donc la grève féministe doit bloquer la production et la logistique militaire. Ces attaques s'accompagnent d'un durcissement autoritaire. En France, la répression s'intensifie, notamment contre les femmes et le mouvement féministe. Perquisition de la librairie lesbienne Violette & Co. pour un livre sur la Palestine. Répression des femmes musulmanes à l'hôpital public, interdite de porter un calot. Interdiction des manifs féministes de nuit. À Marseille, cette logique sécuritaire, réactionnaire et raciste est visible. Présence démultipliée de la police dans les rues, traque des personnes sans papier, contrôle des vendeuses de l'économie informelle, fermeture du marché du soleil et des épiceries de nuit, harcèlement de lieux queer comme le Boom et la Mûrisserie, menace de supprimer les subventions pour les organisations utilisant l'écriture inclusive, interdiction de manifester en soutien à la Palestine et au Rojava, arrêt du projet de la halte soins addiction, agrandissement de la prison des Baumettes. Une victoire a été obtenue avec l'annulation de la fermeture de la mosquée des Bleuets, mais l'islamophobie et l'antisémitisme explosent, nourris par des politiques racistes. Nous ne pouvons rien attendre d'un appareil d'État punitiviste qui précarise massivement les femmes et minorités de genre, réprime nos luttes et couvre les auteurs de VSS. Notre féminisme est anticarcéral et anti-police. La prison et la police sont des outils de contrôle social qui ciblent en priorité les classes populaires et les personnes racisées. Nous devons nous organiser en dehors des logiques répressives de l'État. Cette répression vise aussi les travailleuses du sexe, notamment avec la loi de pénalisation des clients qui accroît leur précarité et leur exposition aux violences. Nous exigeons son abrogation et demandons aux syndicats de revenir sur la prise de position unitaire en soutien à cette loi. Nous dénonçons la récupération du féminisme à des fins racistes, fascistes et impérialistes, que ce soit pour justifier des ingérences en Iran, soutenir la politique coloniale et génocidaire d'Israël, comme le fait l'organisation Nous Vivrons, ou pour traiter l'affaire Epstein sous des angles antisémites, comme le font certains groupes ou médias prétendant se réclamer du féminisme. Alors que l'Assemblée nationale respecte une minute de silence pour un militant néo-nazi quelques semaines avant les élections municipales, nous pensons qu'il faut faire front contre le groupe identitaire pseudo-féministe Némésis et tous les fascistes partout où ils et elles essaieront de s'organiser. L'État n'est pas un rempart face au fascisme dont les cortèges sont systématiquement protégés par la police. Solidarité avec les femmes et les peuples du monde entier, en Iran, au Palestine, au Congo, au Soudan, aux USA, au Rojava, en Afghanistan, au Turkestan oriental, en Ukraine, en Kanaky, au Venezuela. Comme nous défendons l'autodétermination des peuples, nous défendons l'autodétermination de nos corps et de nos identités, un investissement massif dans la santé et l'éducation et le libre accès à la transition, dépsychiatrisée, déjudiciarisée et prise en charge à 100%. Nous luttons pour la dignité de chacun, chacune, de vivre dans de bonnes conditions et dénonçons une loi sur la fin de vie qui masque l'abandon des politiques de soins et l'austérité imposée aux plus vulnérables. Nos luttes sont anti-validistes et transféministes. Nous défendons un féminisme qui porte un projet politique pour toutes et tous, contre l'exploitation, toutes les oppressions et discriminations, racistes, sexistes, validistes, enfantistes, putophobes et transphobes. Pour arracher tout ça, nous devons construire le rapport de force. Notre stratégie, la grève. Une journée de grève, c'est mettre à l'arrêt la société et interrompre le flux de la vie quotidienne. Le 8 mars 2026 est un dimanche et ce sont majoritairement les femmes qui sont contraintes de travailler ce jour-là dans les secteurs du soin, de l'aide à les personnes, du ménage et de la vente. Nous sommes essentielles, montrons-le en nous arrêtant. À nous de construire un monde féministe et de repenser l'organisation sociale de manière collective et solidaire. Rendez-vous au Vieux-Port à 14h le 8 mars pour une zone d'occupation féministe, puis départ en manifestation à 16h. Travail salarié, travail domestique, si on s'arrête, le monde s'arrête.
Yes, on se retrouve dans la rue.
À l'occasion de la journée de grève féministe de ce dimanche 8 mars, Radio Galère sera présente sur la zone d'occupation féministe du Vieux-Port de Marseille pour animer un plateau sur les violences d'État entre 14h et 16h. Dans ce plateau, nous parlerons des liens entre les guerres, les agressions intercommunautaires et les politiques répressives à l'intérieur des États. Nous inviterons des collectifs et associations locales et internationales pour faire un point sur les criminalisations gouvernementales et les types de violences commises, que ce soit celle créée par l'exil ou par les politiques racistes, sexistes et xénophobes. Un plateau qui permettra de penser les résistances et les solidarités à l'international tout en donnant la parole à des personnes vivant et s'organisant à Marseille. À retrouver ce dimanche 8 mars de 14h à 16h sur Radio Galère.
Voilà les informations pour ce dimanche 8 mars. Pour celles qui ne pourraient pas se rendre à la manifestation ce dimanche, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui pourrait faire à la place ?
Alors, ce n'est pas forcément à la place ou en remplacement, mais le 7 mars, effectivement, on fait un rassemblement aux chandelles au Vieux-Port à 19h à la mémoire de nos morts et de nos mortes pour un 8 mars radical qui ne les oublie pas.
D'accord. On passe maintenant aux brèves antiracistes. Après la mort de Quentin, militant identitaire survenu à Lyon le 14 février dernier, on a eu la classe politique et médiatique qui ont très bien su mettre en scène leur émoi face à la violence politique, jusqu'à dédier une minute de silence à l'Assemblée nationale pour un ancien militant de l'Action française, de divers groupes d'extrême droite nationaliste révolutionnaire comme le groupe Lyon Populaire. Donc je reformule pour un peu plus de clarté. On a fait une minute de silence à l'Assemblée nationale pour une personne militante d'un des groupes qui veulent défendre les intérêts des Français d'ascendance européenne, qui prône l'autodéfense blanche, qui un individu qui a participé à la marche du 9 mai, qui est une marche pour néo-nazis, si vous ne la connaissez pas. Voilà, je vous laisse voir son CV sur Wikipédia. Il y a différentes enquêtes aussi qui ont été menées par Mediapart ou Street Press sur Quentin Doranc, qui vous permettent de cerner un peu plus le personnage et globalement l'état de la mouvance d'extrême droite en France. Cette affaire, elle a fait beaucoup de bruit. Ça a d'autant plus criminalisé les mouvements de gauche et ça a aussi normalisé les mouvements et les idées d'extrême droite. On a un déplacement de plus en plus rapide de la fenêtre d'Overton vers la droite et de plus en plus de dépolitisation des sujets qui traversent nos sociétés. Et ça devient vraiment difficile de les aborder. C'est important de reprendre la parole, de se montrer soudé. C'est pourquoi il y a une marche des solidarités qui est organisée partout en France ce samedi 14 mars. Donc c'est le week-end prochain. Je vais vous lire leur petit communiqué qu'ils ont écrit sur Instagram. D'où que l'on vienne, où que l'on soit né, nous vivons ici, nous travaillons ici, nous étudions ici. Ensemble, ils veulent nous diviser, nous précariser, nous faire peur. L'extrême droite avance, les violences d'État continuent, le racisme tue. À la mémoire d'Aboubacar Cissé, tué dans une mosquée. À la mémoire de Jamel Benjabala, tué par un fasciste. À la mémoire d'El Hassen Diarra, tué par la police. À la mémoire de Mamadou Garanté Diallo, mort en mer pour fuir une OQTF. Notre arme, c'est la solidarité. Notre force, c'est la rue. Chaque fois que l'on s'attaquera à l'une d'entre nous, nous ferons face ensemble. Donc c'est l'heure de l'agenda, donc ce samedi 7 mars à la DAR, vous retrouverez Mémoire de Squat, donc venez passer une après-midi qui s'annonce pluvieuse, avoir un film mystère sur un squat, discuter, se tenir et manger des crêpes.
Ce samedi 7 mars toujours, cette fois-ci c'est à la Fraternité, donc à la Belle de Mai, 7 boulevard Burel. On a une soirée solidaire avec Gaza pour le financement d'un puits dans le camp de réfugiés de Nour al-Huda à Nusayrat, à Gaza. L'accueil est à 17h30 avec des stands. À 18h37, la rupture du jeûne avec repas à prix solidaire. Et à 20h15, il y aura des projections, des discussions sur les résistances et stratégies de Marseille à Gaza. Il y aura des espaces de prière, des espaces enfants, des tables militantes, des t-shirts et des tote bags seront achetables sur place. Voilà, n'hésitez pas à venir, il y aura des ateliers d'écriture aux prisonnières et prisonniers palestiniens.
Samedi également, il y aura les 10 ans de Manifesten, un anniversaire qui se fête bien évidemment à Manifesten. Et pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est 59 rue Adolphe Thiers et ça sera à 19h. Et pour celles qui n'ont pas suivi, qu'est-ce qui se passe aussi au Vieux-Port le samedi 7? Donc c'est le rassemblement au flambeau. Avec bougie en commémoration des féminicides. Et du coup, dimanche, c'est comme Juliette nous le disait, la ZOF, puis la manif féministe du 8 mars.
Ce jeudi 12, au bar de la Plaine, à 19h, le groupe Y de la Fédération Anarchiste organise une causerie à propos du football populaire avec Michael Correa, journaliste et auteur d'une histoire populaire du football publiée aux éditions La Découverte.
Et je reviens un peu en arrière parce que le 8 mars, même s'il y a la manif féministe, comme chaque dimanche à 14h, à la Porte d'Aix, il y a la manif en soutien à la Palestine, aux Palestiniennes. Et aussi, là, je vois que le 10, je me perds un peu, le 10, oui, à 17h30, sous l'ombrière du Vieux-Port également, il y aura un appel du collectif pour le Liban, parce que le Liban est de nouveau en guerre, donc je pense que ça sera important d'y aller aussi sous l'ombrière.
Le 13 mars à la DAR, c'est donc vendredi prochain, il y aura une discussion autour du féminisme anticarcéral. On y retrouvera de nouveau le groupe OAI, ainsi que l'UCL Marseille, Antipatriarcam, je ne sais pas parler, qui vous invite tous et toutes le vendredi 13 mars à la DAR, Centre Social Autogéré, 127 rue d'Aubagne, si vous ne le saviez pas, à partir de 18h30 pour une discussion sur les thèmes de l'anticarcéralisme et de l'antipatriarcat, sur la question de comment articuler abolition pénale et féminisme, avec repas à prix libre sur place.
Et du coup, un dernier appel qui sera fait aussi sûrement la semaine prochaine, mais la manifestation de solidarité partout en France ce samedi. Voilà, allez voir sur les réseaux pour avoir des informations sur les horaires et les villes où les manifestations se dérouleront.
Et voilà, les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Et restez à l'écoute de Radio Galère parce que maintenant, tout de suite, à 13h15, ça sera l'agenda alternatif avec Mélodie.